Métaphysique, Père Philippe, 30 novembre 1982, Raymond.
Le chapitre Purification du cœur, le cours de métaphysique, purification de l'intelligence. Hein, ça se fait d'une autre manière. Mais c'est toujours la même chose, hein. C'est le même Esprit Saint, ne l'oublions pas. Et c'est la purification de notre intelligence, la métaphysique. Ça demande un effort de... Il y a moins de proclamations qu'autre chose. Alors, tout de suite, je réponds à ces questions posées. D'où peut provenir le degré de pénétration d'intelligence dans sa saisie métaphysique de la réalité ? Qui lui est extrinsèque. Peut-on avoir une action directe sur la profondeur de notre expérience qui détermine la force de notre jugement d'existence? Faut prier. On doit prier quand on fait de la métaphysique. Plotin, quand il était devant un événement difficile, disait « Invoquons les dieux ». Alors, si lui disait ça, et que nous savons que le Verbe illumine toute intelligence, le Verbe venant en ce monde illumine tout homme. Alors, si nous y croyons, nous demandons au Verbe de Dieu d'illuminer notre intelligence. Et ça, nous devons le faire, hein, parce que nous faisons ça pour Dieu. Hein. C'est pour lui qu'on fait ça, c'est pour lui que nous faisons cet effort de métaphysique. Nous ne prions pas assez. Dieu de nous donner l'intelligence métaphysique, c'est utile, notre monde en a besoin. Alors c'est nous, l'attention que nous devons avoir au cours, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, n'oubliez pas ce que dit Aristote, que ceux qui sont spectateurs peuvent être plus contemplatifs que celui qui doit donner le cours. Alors vous devez porter celui qui donne le cours par votre contemplation, et de vous devez vous porter vous-même par votre contemplation, c'est-à-dire demander à Dieu d'éclairer votre intelligence. Et nous pourrons le dire ici, c'est l'avantage, c'est difficile de dire ça dans une université, parce que même si le Christ, on n'y croit pas toujours, et puis il peut y en avoir qui n'y croient pas, tandis qu'ici on peut le dire. Et c'est peut-être ça une des modalités, vous voyez, d'une recherche, d'une métaphysique à l'intérieur d'une vie monastique. C'est de comprendre que le développement de l'intelligence n'est pas étranger à notre vie monastique. Que le développement de notre intelligence n'est pas étranger à notre vie de foi et à notre vie contemplative. Et donc nous devons demander cela. Je suis persuadé que si on demandait plus à Dieu d'être intelligent pour lui, on serait beaucoup plus vite. Et que c'est Dieu qui nous donne cette pénétration. C'est ça. Nous devons redécouvrir cette pénétration de l'intelligence avant la faute. C'est pour ça que nous demandons au cœur immaculé de Marie de nous donner cette intelligence, cette pénétration, parce qu'à cause du péché, il y a un poids de paresse en nous. Et ce poids de paresse, il continue quelquefois d'exister, c'est évident. Et ce poids de paresse nous empêche de pénétrer plus avant. Alors il faut demander cet éveil, il faut avoir une petite prière au Saint-Esprit, la prière de Saint Thomas quand il supplie l'Esprit Saint de nous éveiller davantage à cette vie intellectuelle. L'Esprit Saint aime que nous soyons intelligents. Alors chaque fois que vous pénétrez plus avant, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit est heureux. Parce qu'il y a le don d'intelligence, le don d'intelligence. C'est pas directement pour la métaphysique, c'est sûr, c'est directement pour la parole de Dieu, mais c'est quand même aussi pour la métaphysique. Le dernier aspect du don d'intelligence, c'est pour la métaphysique. C'est pour qu'on ait cette pénétration plus avant. Alors, vous voyez, il y a la prière et il y a notre attention. C'est sûr que l'attention joue énormément. Du reste, la prière nous permet d'être attentifs. Parce que nous avons tous la capacité d'entrer dans la métaphysique. Tous. Ne disons pas, on n'est pas fait, je ne suis pas un intellectuel, moi je suis un manuel. Hein. Ah oui, vous êtes quand même intelligent. Alors, si on est intelligent, on est quand même fait pour ça. Alors, on a une autre manière d'aborder les problèmes, en manuel, par la main. On aborde l'intelligence par la main. Mais la main est intelligente. Nos pieds aussi, mais ça se voit moins. Tandis que la main, ça se voit plus. Et on est intelligent par le point de vue de notre manière d'atteindre la réalité et la matière. D'où vient le bourgeonnement de la substance en toutes les déterminations catégoriales? Et surtout, comment expliquer la substance première et la substance seconde? Doit-on montrer nécessairement que l'ousia, doit-on montrer nécessairement à l'ousia pour découvrir la personne? Montrer nécessairement l'ousia pour découvrir la personne. Qu'est-ce que la personne au point de vue métaphysique? Nous verrons la personne au point de vue métaphysique, alors je ne la traite pas maintenant. Je dis que par rapport à l'être, il faut nécessairement qu'on passe par l'ousia. Si vous voulez pénétrer l'être, pénétrer profondément et en profondeur ce que c'est que la réalité dans sa dimension d'être, il n'y a pas moyen de faire l'économie de l'ousia. Si vous faites l'économie de l'ousia, vous tombez dans le primat de la relation. Et en tombant dans le primat de la relation, vous restez idéaliste. Et donc, vous ne découvrez pas le primat de l'être par rapport à l'esprit. Parce que c'est ça que nous fait découvrir l'ousia. C'est le primat de l'être par rapport à l'esprit. Alors, le tournant, voyez, Aristote, Descartes. Parce que c'est les deux grands mouvements de la pensée. Il n'y en a pas 36, il y en a deux. Est-ce que vous mettez l'ousia avant la pensée? Ou est-ce que vous mettez la pensée avant l'ousia? Alors, si vous mettez la pensée avant l'ousia, cogito, c'est le cogito qui prime. Ou au contraire, vous mettez l'ousia avant la pensée, alors à ce moment-là, c'est la découverte de l'ousia comme un principe. Comme un principe d'être, comme un principe d'intelligibilité, et votre esprit relatif à cela. Je sais, c'était le père Dominique Dubarle, qui dans sa dernière année à l'Institut catholique, avait voulu dire, on va essayer de faire une synthèse des deux. Je ne sais pas quel était le résultat. Mais je crois que c'est impossible, on ne peut pas faire une synthèse des deux. Je ne peux pas faire une synthèse d'Aristote et de Descartes. Et j'ai le droit de le dire, hein, parce que Descartes a dit expressément qu'il tournait le dos à Aristote. Alors, ce n'est pas une interprétation que je donne. Hein. C'est Descartes lui-même qui a dit ça. Aristote a dit ceci, hein, qu'il y a le tau oti et le ti esti. Et que le tau oti est premier et que le ti esti est second. Avant de se poser la question ce qu'est la réalité, on doit constater qu'elle existe. Donc la réalité existe. Et une fois que je sais que cette réalité existe, je me demande qu'est-ce qu'elle est. Et Descartes dit pas du tout, il faut l'ordre inverse. Il faut d'abord savoir le TST, puis savoir après qu'elle existe. Donc si Descartes a dit ça, vous voyez, c'est curieux, hein. Là nous sommes en présence d'un... La grande montée grecque, c'est ça. Et puis l'aspect à partir de Descartes, l'inversion de la pensée. Et ça va de Descartes à Hegel, et jusqu'à Heidegger. C'est très curieux, ça. C'est extraordinaire de voir comment, là, il y a eu un très, très grand tournant de la pensée. C'est Descartes. Et avant Descartes, Occam. Puisqu'il faut toujours remonter au théologien. Mais Descartes, si on lui disait qu'il avait comme grand-père Occam, il nous regarderait en disant, pas du tout, je ne le connais pas. Alors, vous avez connu Suarez. Et donc, vous êtes dépendant de Suarez et par Suarez d'Occam. Et alors, vous pouvez très bien comprendre ce grand tournant. Alors, il faut que vous-même vous compreniez cela. Alors, êtes-vous avec Descartes? Très bien, si vous êtes avec Descartes, vous allez vers l'idéalisme. Et vous aboutissez à Hegel. Et vous essayez même de redépasser Hegel, mais c'est tellement difficile. Je crois qu'on peut le dépasser. Si on met le TST avant le TOTI, c'est fini. Et vous avez la dialectique. Le primat de la dialectique. Si vous mettez le tauti avant, ah, c'est nécessairement le respect de la réalité. Et le respect de la réalité nous conduit à une connaissance analogique. Parce que c'est la réalité qui fonde l'analogie. En premier lieu, ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence fonde en premier lieu la dialectique. La réalité n'est pas dialectique, mais l'intelligence peut l'être. Si l'intelligence a sa propre autonomie, elle peut être dialectique. C'est pour ça qu'on touche, voyez là, et ça c'est dit, hein, c'est pas une interprétation, c'est dit. Descartes le dit expressément, et Aristote le dit expressément. Nous avons donc là quelque chose de très très fondamental, je crois que c'est ce qui est le plus fondamental au point de vue de la vie de l'intelligence. Le primat du tōti par rapport au tiesti, ou le primat du tiesti par rapport au tōti. C'est rien du genre, pas du tout. C'est tout à fait fondamental. Alors le Rhône et le Rhin, si vous voulez, pour avoir une petite imagination, le Rhône et le Rhin, choisissez. Hein. Présume que le Rhin, très bien, hein. je ne dis rien, parce que ça c'est l'interprétation symbolique. N'est-ce pas ? Mais on trouverait peut-être dans d'autres pays, en Afrique, on trouverait peut-être des exemples comme ça, le Rhône et le Rhin. C'est tellement parlant, le Rhône et le Rhin, n'est-ce pas ? Parce que quand on voit les deux sources, c'est tellement parlant de voir ça et de comprendre tōti tiesti. Aristote dit que la déviation à la source a d'immenses conséquences. On est là devant le point de départ. Alors, j'espère que vous comprenez l'importance de la découverte de l'ousia. L'importance de la découverte de l'ousia. Alors, je reviens à la question posée. Pour découvrir en profondeur l'être, et découvrir en profondeur l'être, c'est-à-dire découvrir ce qu'il y a de premier dans l'être. L'arché, le principe. C'est ça le principe, découvrir ce qu'il y a de premier dans l'être. Il faut découvrir l'ousia. Impossible autrement. Or, de fait, avant cette découverte, il y a du côté descriptif. Donc du côté catégorial. Du côté descriptif, vous avez ces deux aspects de la réalité. Vous constatez le primat de toutes les attributions, le sujet. Et vous constatez, donc l'ousia première, et vous constatez dans les déterminations quelque chose de premier. C'est très curieux, vous voyez, là nous trouvons quelque chose qui est à la fois très proche de la grammaire, hein, parce que c'est le nom et l'attribut. C'est tout ce qui est attribué au nom. Le nom reçoit toutes les attributions, toutes les catégories, les 10 catégories. Le nom reçoit cela. Alors, substance première, substance seconde. La catégorie première, la substance seconde, c'est-à-dire l'attribut par excellence, l'attribut essentiel, par où le sujet est déterminé pleinement. Pierre est un homme. Pierre et homme représentent du côté descriptif, hein, du côté descriptif, sans qu'on saisisse un principe. Du côté descriptif, on voit nécessairement la primauté du sujet, ce à quoi tout est attribué, et la primauté dans l'ordre de l'attribut, puisqu'ils sont nombreux, il y a donc un premier. Il faut nécessairement un premier, ça ne peut pas être autrement. Puisqu'ils sont nombreux, toutes les déterminations sont nombreuses, il y en a donc une première. Et donc une première, il y a l'au-delà de l'attribution et la première attribution. Substance première, substance seconde. On les a appelés comme ça, hein. Vous pourriez les appeler autrement, du reste. Je ne vois pas comment on pourrait dire. C'est vrai, sujet premier, sujet, vous pourriez dire sujet, c'est très bien. Mais le sujet, c'est sa fonction. En disant substance première, vous voulez montrer qu'il y a quelque chose de premier, l'ousia, quelque chose de premier dans le sujet. Parce que c'est à cela que toutes les attributions se terminent. Donc c'est premier dans l'ordre des attributions. Et quand vous dites substance seconde, vous essayez de découvrir ce qu'il y a de premier dans l'ordre des déterminations. Dans l'ordre du tōti eneinain, dans l'ordre de la quiddité, dans l'ordre de l'intelligibilité, ce qui est de premier. Alors vous voyez les deux aspects, le premier dans l'ordre du sujet, le premier dans l'ordre de l'intelligibilité, et puis le dépassement qui se fait dans la découverte du premier dans l'ordre de l'être. Parce qu'au fond, la recherche de l'ousia, c'est la recherche de ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. Or, ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être est au-delà du premier dans l'ordre de l'intelligibilité, du premier dans l'ordre logique, du premier dans l'ordre du devenir, du premier dans l'ordre artistique. C'est vrai, vous pouvez saisir quel est le premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Qu'est-ce qui est le premier dans l'ordre de l'intelligibilité? C'est le Toti-en-Einam, donc l'acuité. L'acuité est première dans l'ordre de l'intelligibilité. Il y a quelque chose de premier, ce qu'on peut définir, ce qui est définissable, c'est ce qui est le premier dans l'ordre de l'intelligibilité, dans l'ordre de ce qui est capable d'être connu. Ce qui est premier dans l'ordre de logique, le sujet. Ce qui est premier dans l'ordre du devenir, la matière. Ce qui est premier dans l'ordre artistique, la forme. J'ai tous les premiers, et le premier dans l'ordre de l'être est au-delà de tous ces premiers. Mais c'est une manière pour nous de saisir ce que représente la primauté dans l'ordre de l'être. La primauté dans l'ordre de l'être est au-delà de tous ces premiers. Alors, si je fais ça, vous voyez, c'est intéressant, ça, parce que ça m'aide à comprendre ce que représente la substance. Ça m'aide à comprendre ce que c'est que la substance. La substance, c'est le premier dans l'ordre de l'être. Alors, si j'identifie, si je confonds l'être et l'intelligible, Platon, si je confonds la logique et l'être, Occam, si je confonds le devenir et l'être, Hegel. Si je confonds l'artiste et l'être, Nietzsche, vous voyez bien, j'arrive forcément à ces primautés, et c'est très curieux, et par là, je saisis le fait quelque chose d'important. Alors évidemment, je peux dire, ah, pour moi, l'être, c'est la forme artistique. Très bien. Faites vos choix. Soyez intelligents. Et faites vos choix. Alors à ce moment-là, évidemment, c'est la forme. Si vous identifiez le devenir et l'être, parce que c'est pas si commode que ça, après Hegel de refaire la distinction entre le devenir et l'être. Si vous dites non, tout être est dans le devenir, impossible de séparer les deux, de distinguer les deux, alors à ce moment-là, fatalement, c'est la matière. Parce que ce qui est premier dans l'ordre du devenir, c'est la matière. Ce qui est premier au niveau logique, c'est le sujet. Vous voyez, vous dites, faites ce, ça, vous pouvez le saisir, hein. Vous pouvez saisir ça. Mais ce qui est important, c'est de comprendre comment il y a ce dépassement, tous ces dépassements, hein. 1, 2, 3, 4, vous avez 4 dépassements pour arriver à cette découverte du premier dans l'ordre de l'être. Alors, il y a diverses manières de le faire. Vous voyez, exprès, je vous donne les diverses manières pour aboutir à cette primauté dans l'ordre de l'être qui est la substance, l'ousia. Principe de l'être, principe propre de ce qui est connaître. Alors, il est bien évident que je ne peux pas comprendre la personne si je ne regarde pas l'ousia. Impossible. Ou bien alors, je regarderai la personne au niveau psychologique. Au niveau psychologique, je n'ai pas besoin de l'ousia. Alors, oui, on pourrait regarder quel est le premier point de vue psychologique, hein, dans notre monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est premier dans notre psychologie? C'est le moi. C'est le moi, premier dans notre psychologie. Psychologiquement, vous ramenez tout à vous, hein. Ça, c'est sûr. La primauté psychologique, c'est votre moi. Et bien, la primauté psychologique du moi, c'est quoi le moi psychologique, hein? C'est pas la substance. Le moi psychologique, c'est ce dont vous avez conscience radicalement. Le moi psychologique, hein, ce dont vous avez conscience radicalement, votre moi psychologique, il est fait d'une quantité de faisceaux, c'est un nœud de relation. Votre moi psychologique, c'est un nœud de relation. Et vous vous attrapez, c'est une toile d'araignée dans laquelle toutes les mouches tombent, hein, c'est comme ça votre moi psychologique. Alors vous essayez de recevoir tous, et chaque fois que vous connaissez quelqu'un, vous le ramenez à vous-même. Le psychologue est terrible pour ça. Si vous mettez la primauté du psychologique, c'est votre moi psychologique. Le moi psychologique est au niveau de l'intentionnalité. Il ne dépasse pas l'intentionnalité. Une intentionnalité affective, une intentionnalité passionnelle, une intentionnalité imaginative, une intentionnalité... C'est tout ça. C'est très confus. Très confus. C'est une primauté assez particulière. C'est pour ça que je dis un tissu, un noyau qui rassemble des quantités... des quantités de relations, qui fait le noyau d'un faisceau de relations. Alors, il faut comprendre que le premier dans l'ordre de l'être est au-delà de ce premier dans le psychologique. Et si je veux vraiment atteindre la personne au niveau philosophique, au niveau métaphysique, je dois passer par l'usure. C'est impossible autrement. Si vous voulez le faire, faites-le, ça m'intéresserait beaucoup de voir, puis je vous montrerai critiquement que ça ne passe pas. Parce que c'est vrai. C'est intéressant, on ne va pas traiter la personne ici, mais au point de vue métaphysique, on doit traiter la personne, puisque en dernier lieu, c'est la personne. Nous faisons toute cette analyse pour essayer de comprendre ce que c'est que la personne. Et la découverte de l'ousia va me permettre de comprendre ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être, et donc va m'aider à comprendre ce que c'est que la personne. Alors, dernière question. Y a-t-il une différence entre le taux d'éthi et le sujet? Alors, je crois qu'il y a une différence. C'est la même réalité. Hein. Le taux d'éthi joue la fonction du sujet. Vous voyez, qui dit sujet dit quelque chose de fonctionnel. Parce que le sujet est relatif à ce qu'il reçoit. Tandis que le taux d'éthi ne dit pas quelque chose de fonctionnel, dit l'individu. C'est la question de savoir si le taux d'éthi et les castons jouent la même rôle. Ça, c'est une grave question, on ne la traite pas ici. Mais le taux d'éthi exprime tout simplement l'individu. Pierre est un taux d'éthi. Taux d'éthi, ce n'est pas au point de vue dans le langage grec. Le taux d'éthi, c'est Pierre, c'est la substance première. Et cette substance première joue le rôle de sujet, joue la fonction de sujet. Le sujet, c'est quelque chose de fonctionnel, tandis que le taux d'éthi n'est pas quelque chose de fonctionnel, c'est quelque chose d'ultime. Je ne peux pas aller au-delà de l'individu, c'est bien évident, au point de vue existentiel. Mais dans l'analyse, le sujet n'est pas dernier. Dans l'analyse, le taux d'éthi n'est pas dernier. Pourquoi ? Parce que le taux d'éthi implique une réalité complexe, qui a son unité, mais une réalité complexe. Et donc, au niveau de l'être, je dois regarder tout ce qui est impliqué dans le taux d'éthi. Et tout ce qui est impliqué dans le taux d'éthi, c'est les 10 catégories. Les 10 catégories, l'homme en tant qu'un taux d'éthi, chacun d'entre vous, faites votre petite carte de vous-même sans la montrer aux voisins, n'est-ce pas, et en voyant les 10 catégories qui sont en vous. Et vous voyez tout de suite vos 10 catégories. Et c'est ça votre individualité. C'est ça votre individu. Vous êtes un taux. Donc ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui est premier dans l'ordre de l'être. Quand j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être, je ne peux pas dire c'est pour ça que l'être c'est le taux d'éthi. Oui, au niveau existentiel. Au niveau existentiel, ce qui existe, ce que je touche dans l'ordre de l'être, c'est le taux d'éthi. Ce n'est pas le sujet, hein, c'est le taux d'éthi. Et je vois que ce taux d'éthi joue le rôle de sujet à cause de sa complexité et qu'il est capable de recevoir un tas de déterminations. Mais ce taux d'éthi qui existe, que je touche, il est complexe. Donc je ne peux pas m'arrêter à cela quand j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être. Alors l'interrogation m'oblige d'aller plus loin et de creuser dans cette complexité du taux d'éthi ce qu'il y a de premier. Bien, ce qu'il y a de premier, ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être, dans le taux d'éthi, c'est ce que j'appelle l'ousia. C'est ce principe, cette source de toutes les déterminations. Et c'est ça qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. C'est pour ça que ça nous aide beaucoup de regarder l'ousia comme l'au-delà, substance première, substance seconde. Et je crois pour nous, un des moyens les plus rapides, c'est pas commode, mais c'est un des moyens les plus rapides de saisir ce que c'est que l'ousia. C'est le dépassement de la substance première, de la substance seconde. Alors, ça a l'avantage que tout le monde peut comprendre ce que c'est que la substance première et la substance seconde. Parce que là, il n'y a pas d'abstraction. Donc, tout le monde peut le comprendre. Hein, c'est d'ordre descriptif. Le langage, c'est descriptif. Les attributions, c'est descriptif. Le sujet qui reçoit toutes ces attributions, donc le taux d'éthique, nous comprenons, nous touchons notre individualité. Nous savons bien que nous sommes un individu qui est tout à fait distinct du voisin, et que le Seigneur permet qu'il y ait quelque chose en nous d'original et d'unique. Et on est un taux d'éthique. Donc ça, je peux le comprendre. Et je peux, à partir de la substance première et de la substance seconde, comprendre qu'il y a en effet quelque chose qui est au-delà. Le dikoinon, le quelque chose de commun. Le quelque chose de commun entre la substance première et la substance seconde. Et ce quelque chose de commun entre la substance première et la substance seconde, c'est justement ce principe. Dans l'ordre de l'être, l'au-delà du sujet, l'au-delà de la détermination, l'au-delà de la matière, l'au-delà de la forme. Vous voyez, ce sont tous ces au-delà. L'au-delà du Totieneinain, c'est un au-delà du Totieneinain, puisque l'être est antérieur à l'intelligibilité de l'être. L'être est antérieur à l'intelligibilité de l'être, puisque l'intelligibilité de l'être n'est pas l'être. L'être a quelque chose de plus, c'est qu'il existe dans son autonomie. Tandis que l'intelligibilité de l'être, c'est ce que mon intelligence est capable de saisir de la réalité. Et mon intelligence est capable de saisir la réalité, capable de saisir dans la réalité son contenu intelligible, mais la réalité existentielle de cet être, cette réalité individuelle de cet être, elle est antérieure à mon intelligence. Elle est au-delà de mon intelligence. Mon intelligence peut la saisir. Alors, vous voyez, c'est là où c'est très très important à saisir, à comprendre comment l'intelligence est capable de dépasser le domaine de l'intelligibilité. Je ne peux pas définir l'intelligence par l'intelligibilité, tandis que je définis l'intelligence par l'être. Et c'est vrai que je ne peux pas définir le point de vue de l'intelligence par l'intelligibilité. Parce que si je définissais l'intelligence par l'intelligibilité, vous voyez, je définirais l'intelligence par ce qui détermine l'intelligence. Alors ce qui détermine l'intelligence est assimilé par l'intelligence. Et donc, je déterminerai l'intelligence par son fruit. Ce qu'elle est capable d'assimiler, qu'elle est capable de saisir pleinement et totalement. Alors je définirai l'intelligence par les concepts. Et les concepts sont les fruits. Alors si je définis l'intelligence par son fruit, c'est le positivisme. Le positivisme le plus foncier, c'est de définir l'intelligence par son fruit, c'est-à-dire par le concept, par l'intelligibilité. Et à ce moment-là, je ne vois pas que l'intelligence est capable de s'ouvrir à autre chose. Je ne verrai plus, si vous voulez, la capacité de l'intelligence de pouvoir aller toujours plus loin. Pourquoi l'intelligence peut-elle aller toujours plus loin? Parce qu'elle est mesurée par l'être. Si elle n'était pas mesurée par l'être, elle ne pourrait pas aller toujours plus loin. Vous voyez, c'est une des manières pour nous, peut-être, de comprendre, justement, ce dépassement de l'intelligence par rapport à l'intelligible. C'est que l'intelligence ne peut jamais s'arrêter dans sa recherche. N'allez pas dire à un chercheur, maintenant c'est arrêté. Non, il dira non, je peux toujours aller plus loin. N'allez pas dire à un philosophe, c'est suffisant maintenant. Vous avez dit des choses suffisamment profondes, arrêtez-vous. Non, il doit aller toujours plus loin. Pourquoi? Parce que l'être n'est jamais totalement épuisé par la recherche philosophique. Il y a toujours dans l'être quelque chose que l'intelligence peut pénétrer davantage, peut aller plus loin. Donc, je crois que comme ça, on répond aux diverses questions posées. Nous allons continuer notre effort. Mais si, c'est très bien, parce que ça permet de toucher le même sujet dans une perspective un peu différente. Il s'agit de bien comprendre, une fois qu'on a saisi le point de vue de Lousia, du moins qu'on a découvert Lousia, qu'on a découvert ce qu'est Lousia, principe de ce qui est. Et nous précisons, principe selon la forme de ce qui est. Principe selon la forme de ce qui est. C'est important de souligner ça, parce que nous avons saisi Lousia comme un au-delà des déterminations et un au-delà du sujet. Alors vous voyez cette chose très curieuse, hein? Et alors là, c'est très très important à saisir. Les déterminations, ce sont des formes. Le sujet, dans ce qu'il a de radical, c'est la matière. Donc on saisit Lousia comme un au-delà de la forme et de la matière. Et c'est vrai. Le principe dans l'ordre de l'être est au-delà de la forme et au-delà de la matière. Mais je ne dis pas principe selon la forme, je ne dis pas principe selon la matière. Ça, c'est curieux. Je pourrais le dire, puisque de fait, c'est un au-delà de la forme et de la matière. Il est au-delà de la substance seconde, au-delà de la substance première. Donc, il est au-delà des deux. Pourquoi je dis seulement principe selon la forme de ce qui est, et non pas principe selon la matière de ce qui est? Je dis principe selon la forme de ce qui est parce que Lousia est saisie dans le prolongement de la forme. Donc, il est saisi dans le prolongement de la forme, mais dans le prolongement de la forme d'une manière telle que je ne m'arrête pas au sujet et que je vais au-delà du sujet. Donc, c'est vrai qu'il est selon la forme, principe selon la forme, et non pas principe selon la matière. Parce que la matière, d'une certaine manière, est première, substantiellement première, dans l'ordre du devenir. Si elle est première dans l'ordre du devenir, je ne peux pas aller au-delà. Et dans l'ordre de l'être, elle disparaît. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de premier dans l'ordre de l'être au niveau de la matière. Ça, c'est très important à comprendre. Il n'y en a que deux qui ont dit qu'il y avait un premier dans l'ordre de l'être dans la matière. C'est Averroès et Lénine. C'est intéressant de les voir se rejoindre. Ils s'embrassent métaphysiquement. Averroès et Lénine. Averroès dans le monde arabe, on voit bien, dans le monde arabe, dans le monde musulman, disons, c'est plus juste. Et puis Lénine, par rapport à la dialectique matérialiste. C'est voir qu'il y a un premier dans l'ordre de l'être. Donc c'est intéressant de se poser le problème, c'est intéressant d'y réfléchir. Parce que c'est par là que vous dépassez, voyez, le matérialisme. La métaphysique ne peut pas être matérialiste. C'est pour ça qu'on a une haine vis-à-vis de la métaphysique. Parce qu'elle empêche notre esprit de rester au niveau de la matière. Elle exige notre intelligence de dépasser la matière. Premier, selon la forme de ce qui est. Le dépassement de la forme et de la matière. Comprenez bien, ce dépassement de la forme et de la matière, c'est très important de comprendre que dès que je suis dans l'ordre de l'être, je suis au-delà de la distinction forme et matière. La distinction forme et matière n'est pas une distinction au niveau de l'être, c'est une distinction au niveau du devenir. C'est ce que Gilson n'a pas assez saisi. Et ce qui montre que Gilson n'a pas atteint le point de vue vraiment métaphysique. Il faut le dire avec beaucoup de respect, parce que Gilson est quand même un très bon historien, mais quand il fait de la métaphysique, il y a quelque chose là qui ne va pas. Parce que pour lui, la distinction de la matière et de la forme, c'est la distinction qui caractérise la philosophie d'Aristote. Alors il faut dire que la distinction de la matière et de la forme ne caractérise pas la philosophie d'Aristote, premièrement. Elle caractérise la philosophie de Platon. C'est très vrai que la distinction de la matière et de la forme caractérise la philosophie de Platon. Parce que la distinction de la matière et de la forme chez Platon se retrouve à travers toute sa philosophie. Toujours, il y a un dualisme. Tandis que chez Aristote, pas du tout, la distinction de la matière et de la forme est saisie au niveau du devenir, c'est-à-dire au niveau de sa philosophie de la nature. Et dans cette philosophie de la nature est impliquée la philosophie du vivant. Ça, c'est très vrai, que la matière et la forme caractérisent la phusis forme, la phusis matière, caractérise la philosophie de la nature d'Aristote. Mais dès qu'Aristote dépasse le point de vue du devenir, dès qu'il est au-delà du devenir et qu'il essaie de saisir ce que c'est que l'être, alors la distinction de la matière et de la forme est dépassée. Autrement dit, la distinction de la matière et de la forme ne me permet pas de saisir ce qu'est l'être. Cette distinction me permet de saisir ce qu'est le devenir, mais pas ce qu'est l'être. Pour saisir ce qu'est l'être, il faut dépasser cela pour saisir l'ousia. C'est très très important ça, vous voyez. Parce que ça fait comprendre que la métaphysique d'Aristote n'est pas liée à sa physique, ce qu'on dit tout le temps. Et Gilson l'a dit, et ça se répète. La philosophie première d'Aristote n'est pas liée à sa physique. Elle est au-delà. C'est au-delà de ce monde physique. Et pour comprendre ça, il suffit tout simplement de comprendre que l'ousia est au-delà de la distinction de la matière et de la forme. Une fois que je comprends que l'ousia est au-delà de la distinction de la matière et de la forme, je comprends que la métaphysique d'Aristote n'est pas liée à sa physique. La physique d'Aristote peut être périmée, mais sa philosophie première ne l'est pas. Et c'est pour ça que l'Église maintient la philosophie première. Tandis que l'Église ne maintient pas la physique d'Aristote. La physique d'Aristote a des choses qui demeurent. Hein. La distinction de la matière et de la forme demeure, ça. Ça, c'est bien évident. On est bien obligé de reconnaître que dans le monde physique, il y a toujours matière et forme. Tout le temps. C'est intéressant de comprendre et que la physique moderne ne supprime pas la distinction de la matière et de la forme. Il y a un livre apologétique là-dessus qui est en train de s'écrire par quelqu'un qui connaît bien la physique moderne et qui connaît bien les mathématiques et qui essaie de montrer ça. Alors l'erreur qu'il fait de temps en temps, c'est de confondre justement le domaine métaphysique et le domaine physique. C'est l'erreur qu'il fait. Mais au point de vue physique, philosophie de la nature, c'est intéressant de voir que les recherches modernes de la physique ne peuvent en rien supprimer la distinction de la matière et de la forme. Ça purifie la distinction de la matière et de la forme d'Aristote, mais ça ne la supprime pas. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça alors c'est capital, il faut comprendre que la philosophie première d'Aristote ne dépend pas de la distinction de la matière et de la forme. Donc ne dépend pas de sa physique. C'est un autre point de vue. Le point de départ de la philosophie première d'Aristote n'est pas le même que celui de sa physique. Vous voyez ? Et c'est là le danger quand on dit métaphysique. C'est pour ça que c'est un terme qu'on ne devrait plus employer et dire tout le temps philosophie première. Parce qu'on dit métaphysique, on croit toujours que le sous-jacent qu'il y a comme fondement de la philosophie première, la physique, ça vient après. Et donc, si les sous-bassements ne sont pas très bons, vous comprenez que tout le reste est changé. Alors, ça, il faut le saisir. Hein. Il faut saisir que l'ousia est saisie au-delà de la distinction de la matière et de la forme. Cette distinction est vraie en philosophie de la nature. Cette distinction est vraie à l'égard de tout le devenir. Partout où il y a devenir, il y a distinction de matière et de forme. Partout où il y a devenir. Donc, dans l'activité artistique, dans le travail, il y a matière et forme. C'est bien évident. C'est même dans l'activité artistique et dans l'œuvre artistique qu'on saisit en premier lieu la distinction de la matière et de la forme. Ça, je crois. Je crois que génétiquement, la première distinction de la matière et de la forme, ça s'est fait dans l'œuvre artistique. C'est pour ça que ça caractérise la philosophie de Platon. Parce que c'est à l'égard de l'œuvre artistique qu'on saisit le mieux. Aristote reprend ce petit exemple très simple. Il y a le cercle d'airain, il y a le cercle de bois, il y a le cercle de pierre. Et donc je distingue tout de suite. Le cercle, c'est la forme, et le cercle d'airain, c'est la matière. Alors nous pouvons tous saisir la distinction de la matière et de la forme, parce qu'il y a séparation de la forme et de la matière. Alors vous saisissez très bien, et c'est pour ça qu'Aristote dit on saisirait parfaitement la distinction de l'âme et du corps si on voyait des âmes avec Adam, la terre rouge, des âmes en bronze. Si parmi vous il y avait des corps de bronze, si parmi vous il y avait des corps d'or, très dangereux aujourd'hui, hein. Vous serez volé tout de suite. Alors ça ne servirait pas. Il faudrait une garde particulière. Non, parce que si vous avez, c'est ça, ce serait dangereux. Mais, alors on distinguerait tout de suite, Aristote dit tout bonnement, alors on comprendrait parfaitement la distinction de l'âme et du corps. Tandis que c'est plus difficile, parce que de fait l'âme est toujours logée dans le même, dans un corps, c'est toujours Adam, terre rouge, plus ou moins rouge, mais c'est quand même toujours Adam. Alors, c'est toujours la terre, toujours le même composé. Alors, on a de la peine à distinguer matière et forme. On a de la peine à distinguer les deux. Parce que, de fait, l'âme est toujours liée à un corps qui est composé. Mais ce qui est important à saisir, donc, ici, c'est que la distinction matière et la forme est dépassée dès que je suis au niveau de l'être. Alors, la grande distinction qui arrive, dès que je suis au niveau de l'être, c'est de saisir la distinction entre substance et qualité. Et je dis bien substance et qualité. Substance et relation. Substance et quantité. Voilà ce qu'il faut saisir au point de vue métaphysique. C'est qu'il y a une distinction dans l'ordre de l'être entre l'ousia et la qualité. Et ceci, comprenez-le bien, le progrès de la science ne peut en rien déloger cette distinction. Parce que la science n'est pas au niveau de l'être. Là, Heidegger a raison. La science ne touche pas l'être. Puisque la science, elle touche la matière, elle touche le devenir, mais elle ne touche pas l'être. Si la science ne touche pas l'être, la distinction entre substance et qualité demeure. La substance entre substance et quantité demeure. Substance et relation demeure. Et c'est la grande distinction que nous saisissons tout de suite, dès que nous saisissons l'ousia comme principe selon la forme de ce qui est. Alors réfléchissez à ça, parce que ça c'est capital, de bien réfléchir entre la distinction entre matière et forme, et substance et qualité. Il faut secouer ça très très fort, et c'est très très important de comprendre cela. Alors, la petite remarque, vous voyez, au point de vue épistémologique, la petite remarque au niveau critique, c'est qu'une distinction qu'on fait est vraie, dans un domaine particulier. Et que cette distinction n'est pas vraie pour toute espèce de domaine. C'est là le sens analogique que nous devons avoir. La distinction matière et forme est une distinction très importante, c'est bien évident. C'est une distinction très importante. Mais c'est une distinction qui n'est vraie que dans un domaine particulier, qu'à un certain niveau. Le niveau du devenir. Partout où il y a devenir, partout où la génésie se rencontre, hein, pour que vous compreniez mieux, il faut le dire en grec, hein, partout où la génésie se rencontre, partout où vous rencontrez le point de vue de la génération, le devenir, vous pouvez être sûr que la distinction de la matière et de la forme existe. Dès que vous êtes au-delà du devenir, dans l'ordre de l'être, la distinction de la matière et de la forme disparaît. Parce que vous êtes dans l'ordre de l'être. Vous êtes dans l'ordre de l'être. Alors tout ce qui est au niveau de l'être, hein, tout ce qui est au niveau de l'être, est au-delà de la distinction de la matière et de la forme. Alors je peux dire, en critique, tous les transcendentaux, Dès que je suis au niveau des transcendentaux, la distinction de la matière et de la forme disparaît. Je ne peux pas faire la distinction de la matière et de la forme au niveau vérité, au niveau bonté, au niveau unité. Les transcendentaux. Ce qui me fait comprendre que là, si je fais cette distinction à l'égard des transcendentaux, non, je ne comprends plus rien. Ça prouve que je n'ai pas compris ce que c'était que l'être. Oui. Alors, on voit bien cette position. C'est intéressant, je vous dis, Gilson, est quand même, qui est un des grands maîtres de la pensée d'aujourd'hui, il y a des quantités de personnes qui suivent Gilson, parmi les thomistes. C'est Gilson ou Maritain. Ça fait les deux grands, qui ne sont pas, à un moment donné, Gilson et Maritain, s'opposaient presque. Hein. On voyait très bien, il y avait les deux tendances, la tendance Maritain, la tendance Gilson. Alors c'est très curieux de voir que Gilson, lui, pratiquement s'arrête à la distinction matière et forme, et ne va pas plus loin. Alors il a pris évidemment la distinction essence et existence, mais je ne vois pas très bien comment il peut la comprendre en restant à ce niveau matière et forme. Et puis il y a Maritain avec l'intuition de l'être, ce que nous avons vu. Maritain ne parle pas de la substance, et de la qualité. Alors à ce moment-là, il reste à un niveau descriptif. Il reste à un niveau descriptif. Maritain accepte la distinction de la matière et de la forme, mais au niveau métaphysique, il reste à l'intuition de l'être. Et il ne saisit pas l'analyse que nous sommes obligés de faire si nous voulons comprendre ce que c'est que l'être dans ce qu'il a de premier et d'essentiel. Et alors, dès que vous découvrez l'ousia comme principe, immédiatement vous découvrez ce qui n'est pas le principe de l'être. Qu'est-ce qui n'est pas le principe de l'être ? La qualité. La qualité, c'est de l'être, mais ce n'est pas principe de l'être. C'est quelque chose de second. Vous découvrez la quantité. La quantité, c'est de l'être, mais ce n'est pas un principe d'être, c'est second. La relation. La relation n'est pas première dans l'ordre de l'être. Alors vous voyez qu'en disant ça, vous faites quelque chose d'extrêmement intéressant. De voir que l'ousia est première, la qualité est seconde, la relation est seconde, la quantité est seconde. Et puis vous mettrez ensuite un ordre dans ces secondes. Ça se fait après. Nous le ferons après. Vous mettez un ordre dans ces secondes, mais vous ne mettez pas directement un ordre dans ces secondes, parce que vous les relativisez par rapport à la substance. La relation est relative par rapport à la substance, la qualité est relative par rapport à la substance, la quantité est relative par rapport à la substance. C'est second, ce n'est pas premier dans l'ordre de l'être.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que les matières et formes sont des qualités de l'être ?
Non, je ne peux pas dire ça d'une façon absolue. Parce que vous voyez, faisons attention, je saisis la matière et la forme dans la perspective du devenir. Vous voyez ? C'est ça que je saisis, dans la perspective du devenir. Dès que je suis dans la perspective de l'être, j'atteins une autre vision. Alors, ensuite, je peux faire un parallèle, ça je suis d'accord, mais pas direct. Je pourrais dire que la qualité, c'est la forme. Ça, je suis d'accord. Vous voyez ? Au point de vue de l'être. C'est une détermination. Et qu'au fond, la qualité, c'est vraiment la forme. Que la quantité, c'est pas la matière. Vous voyez ? La quantité est plus immédiatement reliée à la substance que la matière, d'une certaine manière. Et d'une autre manière, la matière est plus immédiatement reliée à la substance. Donc, vous voyez, c'est difficile, c'est une autre division. C'est pour ça que je ne peux pas mettre ici matière. Pour la qualité, ça colle à peu près, bien que ça ne colle pas pleinement, parce que la relation, elle est forme. La relation, c'est une forme. Une forme extrêmement ténue. Nous verrons, mais c'est une forme, la matière, la relation. Donc, vous voyez, si j'identifie matière et forme, je veux dire, si j'identifie qualité et forme, alors la relation n'est pas forme. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Je peux dire que la qualité est une certaine forme et que d'une certaine manière, pour moi, c'est la forme la plus manifeste. Mais la relation est aussi une forme. Donc je ne peux pas identifier qualité et forme. Oui. Je ne peux pas identifier quantité et matière. Non. Il y a autre chose. C'est pour ça qu'il faut respecter, c'est très important de voir que ces divisions sont à un niveau du devenir et que je reprends d'autres divisions à un niveau de l'être.